Histoire, histoire, une émission de la radio web Esprit Occitanie. Regard croisé sur le patrimoine avec tous ceux qui le découvrent, l'étudient et le protègent. Archéologues, historiens, conservateurs, politiques, archivistes, bénévoles d'associations, tous nous offrent une vision sans cesse renouvelée de notre connaissance du passé, riche d'enseignements, de découvertes et d'émotions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Barbara Ambruster. Bonjour Barbara.
Bonjour Monique.
Directrice de recherche au CNRS, orfèvre, archéologue, ethnologue. Vous êtes rattachée aujourd'hui au laboratoire Traces de Toulouse. Traces, c'est travaux et recherches archéologiques sur les cultures et les espaces et les sociétés. Mais vous maîtrisez cette langue, vous avez fait des recherches à travers le monde, des conférences, des publications. Une invitée passionnante, et nous allons parler avec vous des ors et des orfèvreries anciennes. Vous êtes née, je crois, à Darmstadt, en Allemagne. Comment passe-t-on d'artisan orfèvre à chercheur au CNRS dans un parcours finalement peu banal? Racontez-nous, Barbara.
Bon, j'ai fait une formation professionnelle dans une école d'art appliqué en Allemagne et on avait des cours sur l'histoire de l'art. Et c'est là où est né mon intérêt de m'occuper aussi des choses anciennes, des bijoux anciens, de m'intéresser à leur technique, leur fabrication. Et donc, c'est après mon école, mon CAP, j'ai d'abord accepté un travail dans un atelier d'orfèvrerie, mais je voulais aller plus loin et finalement, j'ai mené des études à Francfort pour étudier l'archéologie et l'ethnologie. Et j'ai fait ensuite des travaux pour l'université, bien sûr. D'abord en Afrique, par exemple, ou ailleurs, pour étudier des objets. En Afrique, pour travailler avec des artisans, des orfèvres, des forgerons qui font les outils pour l'orfèvre et aussi le bronzier qui fait la coulée à la cire perdue. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses de ces gens qui travaillent avec presque rien. Et moi, formée en orfèvrerie moderne, j'ai dans mon atelier des outils très précis. Et eux, ils travaillaient avec de la récup, avec presque rien. Et ils faisaient des merveilles. Donc, ça m'a beaucoup impressionnée. Et comme ça, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus dans les techniques, des outils, des ateliers. Et c'est ce qui était finalement accepté par le CNRS pour m'intégrer comme chercheur dans cette institution française.
En quelle année avez-vous intégré le CNRS ?
Dans le 2000.
Après donc vos voyages au Mali ?
Oui, après.
C'était dans quelles années ?
Ça, c'était dans les années 80.
Ça ne devait pas être très simple pour une femme d'intégrer les communautés d'orfèvres en Afrique.
Il fallait quand même montrer que je suis apte à travailler le métal. Donc, c'était comme une épreuve et j'ai l'impression beaucoup impressionné les collègues artisans maliens et burkinabés parce que j'ai travaillé aussi au Burkina Faso. Et c'est vrai que les femmes ne travaillent pas le métal là-bas. Elles travaillent plutôt la céramique ou les tissus. Mais j'étais tout de suite intégrée, mais il fallait manger avec les hommes, pas avec les femmes. Et il y avait certains interdits, par exemple d'aller dans des mines d'or parce que les femmes ne vont pas dans la terre.
Très intéressant. Aujourd'hui, vos recherches portent essentiellement sur la métallurgie de l'or, mais aussi de l'argent, des alliages cuivreux, et plus précisément quand même sur le développement des techniques à travers le temps. Et l'importance, évidemment, et la valeur des métaux dans les sociétés anciennes, qui sont des valeurs totalement différentes des nôtres aujourd'hui. Mais pour nos auditeurs, pratiquement, qu'est-ce que suppose cette activité ? Comment travaillez-vous ?
Donc, mon activité est pluridisciplinaire. Il faut dominer plusieurs façons de rechercher des informations sur les objets, sur les traces, sur les outils, sur les techniques. Et donc, il faut collaborer, bien évidemment, avec des collègues dans un terrain international, avec des laboratoires de recherche, autres du CNRS ou de l'archéométrie, avec des musées. Il faut bien sûr travailler aussi dans des bibliothèques, faire beaucoup de recherches bibliographiques et avoir des collaborations avec d'autres universités aussi pour le transfert du savoir-faire pour les jeunes.
Êtes-vous nombreux sur la planète à travailler dans cette discipline?
On a quand même des congrès internationaux qui rassemblent les gens qui s'intéressent à l'archéométallurgie, qui ne s'occupent pas que des techniques, mais aussi des analyses de composition, etc., donc l'archéométrie. Mais en général, c'est rare hein, dans les différents pays. Et en France, il y avait d'autres collègues qui travaillaient sur des questions de technologie de l'or, mais qui sont maintenant plus en activité.
Alors, comment définissez-vous vos sujets d'études? Est-ce vous qui choisissez les collections sur lesquelles vous souhaitez travailler? J'imagine par exemple les premiers ors de l'humanité de Varna. Ou bien est-ce les musées ou les d'autres chercheurs qui vous contactent? Comment ça se met en place finalement?
Bon, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, pour mon doctorat, c'était bien sûr moi qui choisissais les musées et les collections à voir. Donc, c'était au Portugal et en Espagne. Donc, il fallait que j'apprenne les langues d'abord et que je contacte les gens. Et là aussi, il fallait faire des épreuves à montrer ce que je sais faire. Et j'étais bien acceptée. Ensuite, je suis passée au nord de l'Allemagne dans un musée dans le Schleswig-Holstein, et j'ai eu l'occasion de travailler sur les ors et les bronzes scandinaves. Et pour la première fois, je suis sortie de la proto-histoire, parce que j'ai commencé avec des travaux sur l'âge du bronze et l'âge du fer.
Donc, sont quelle période à peu près chronologiquement?
Ça dépend de la géographie, mais dans l'Europe occidentale, c'est de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à 9 ou 800 avant.
Donc, vous avez l'occasion de partir notamment au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, ou bien de travailler sur le trésor mésopotamien de la ville d'Our au musée de Philadelphie, ou encore le British Museum. Donc, là aussi, sur quelle collection vous avez travaillé et avec qui vous travaillez dans les musées?
Donc, souvent, c'était dans le cadre des projets de recherche d'autres collègues, avant que je mène moi-même des projets. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, dans l'Ermitage, c'était l'Institut archéologique allemand qui avait fait des fouilles archéologiques d'un kourgan, c'est un tumulus funéraire de personnes importantes. Et la tombe centrale avait 20 kilos d'or pour un homme et une femme qui étaient enterrés et qui étaient littéralement couverts d'or. Et ces objets n'étaient pas étudiés en Sibérie, où se trouve le lieu de découverte, mais dans le musée d'Ermitage, où les objets étaient nettoyés, restaurés et finalement étudiés par moi.
Vous parlez russe?
Non. Là-bas, c'était possible de communiquer en anglais, donc le russe, c'est une des langues que, malheureusement, je ne connais pas. Mais par exemple, les autres occasions en Philadelphie, vous avez mentionné ça. Donc, à Philadelphie, j'ai travaillé dans le Penn Museum, qui a des grandes collections du Proche-Orient. Et dont à peu près un quart de ce qui était découvert, non seulement des objets en or, mais de tous les matériaux, dans la nécropole royale de Our, en Mésopotamie. L'autre moitié est au British Museum et la moitié est à Bagdad, si c'est encore en place.
Alors, comment travaillez-vous pratiquement? C'est-à-dire, on vous confie une collection. Comment allez-vous aborder la question de la technologie ancienne qui a été développée pour la fabrication de ces objets? Sans parler là de la typologie, mais la chronologie certainement doit avoir une importance dans vos études par rapport à l'outillage ou au mode qui pouvait exister, j'imagine, à certains moments de l'histoire.
Oui, donc je disais initialement que mon travail est interdisciplinaire. Donc il y a des modes de travail, donc des approches que je domine moi-même. Donc je suis archéologue, ethnologue et artisane. Donc, je observe les objets par macro et microscopie. Avec l'aide de collègues d'archéométrie, on a parfois accès à des microscopes qui agrandissent beaucoup plus. C'est le microscope électronique à balayage. Et c'est avec ces moyens d'imagerie qu'on a accès à des informations de traces d'outils, même par la radiographie, par exemple, de la structure d'un objet s'il est creux. Quand c'est massif, la radiographie ne nous aide pas du tout pour l'or parce que c'est trop dense. Mais il y a beaucoup d'objets qui sont creux. Et donc, on rassemble des informations par macromicroscopie. L'analyse des traces d'outils a une très grande place dans ces travaux parce que, étant artisane, je sais exactement quel outil laisse quel type de traces. Et donc, c'est une première étape. Ensuite, je fais de l'expérimentation et avec des outils qu'on connaît en archéologie pour l'orfèvrerie et pour les métaux non ferreux, c'est des outils au début de la métallurgie en pierre. Et donc ces objets lithiques ont été aménagés pour travailler le métal. Ensuite, lors de l'âge du bronze, on change le matériau de la pierre au bronze parce que c'est beaucoup plus facile de concevoir un marteau et une enclume en bronze et on peut en plus recycler cet matériau, ce qui n'est pas possible avec la pierre. Et donc il y a une évolution aussi, non seulement dans les techniques, mais aussi dans les outils qu'on applique et on peut voir des traces comme une empreinte digitale sur l'objet. Et bien sûr, il faut des connaissances techniques pour juger de ces détails.
Donc, vous avez accès à des laboratoires. J'imagine, par exemple, le laboratoire du Centre de recherche des musées de France à Paris avec l'accélérateur Aglaé. Mais avec quel autre grand laboratoire peut-on travailler aujourd'hui en Europe sur cette problématique ?
Donc, il y a, dans chaque pays, il y a des laboratoires qui travaillent avec de l'archéométrie. Ils sont de plus ou moins bien équipés. Donc, les mieux équipés actuellement pour mes recherches se trouvent quand même en Allemagne, en France, mais aussi en Angleterre. Et donc, j'ai travaillé surtout avec un laboratoire en Allemagne qui est à Mannheim, qui s'appelle Kurt Engelholm Zentrum. Et ensuite, un autre laboratoire à Bochum, au musée de la mine, où on a étudié la composition justement des ors de Ur en Mésopotamie, parce que je suis allée à Philadelphie dans le cadre d'un projet de ce musée. Et ensuite, je travaille en France avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France à Paris, en dessous du Louvre, mais également à Orléans, où il y a un campus du CNRS avec un laboratoire qui s'appelle IRAMAT. C'est l'Institut des recherches sur des archéomatériaux où on fait des analyses. Ce qui est intéressant, récemment, j'ai travaillé avec deux laboratoires au même temps. Ils ont échangé des objets qu'ils ont coupés et les deux ont fait des recherches. Après, ils ont comparé et ont fait des étalons pour que leurs résultats seront à la fin de nos études communes comparables.
Et oui, parce qu'il existe plusieurs techniques d'analyse, plusieurs équipements qui ne sont pas tous paramétrés de la même façon, c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Alors, vous avez choisi pour la première pause musicale un morceau, Tech Five, de Dave Brubeck. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix ?
Oui, donc dans mon adolescence, j'ai découvert par la radio le jazz et ça m'a beaucoup touchée, contrairement à tous mes copains et copines. Et à 14 ans, j'ai eu mon premier disque, c'était un double album, justement, qui s'appelle Time Out du quartet de Dave Brubeck. Et cette musique, mais aussi le jazz tout en général, et d'ailleurs à Toulouse, avec le festival Le Jazz sur 131. Ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Vous écoutez de la musique en travaillant ?
Souvent, quand je travaille sur des images, par exemple, quand j'écris des textes, plutôt non.
Alors écoutons ce morceau, merci. Barbara Ambruster, directrice de recherche au CNRS, vous nous parlez aujourd'hui de vos recherches sur les techniques des ors et des orfèvres des civilisations passées. Vous avez dirigé deux programmes franco-allemands, je crois, qui étaient financés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et par une autre institution en Allemagne. Pouvez-vous nous parler un peu de ces projets de recherche ?
Oui, avec plaisir. Donc, ce sont deux projets qui traitaient de l'or des Celtes. Les Celtes, c'est des peuples pendant de l'âge du fer qui vivaient en France et en Allemagne et ailleurs. Mais nos projets, c'était basé sur des recherches sur des objets en France et en Allemagne, surtout avec quelques pays annexes, donc Benelux, la Suisse et l'Autriche. Et donc, l'intérêt était de rassembler différents chercheurs. On était 11 dans le groupe, une équipe binationale avec des compétences très différentes. Il y avait des conservateurs de musées, il y avait des archéomètres qui font des analyses de composition élémentaire des alliages utilisés. Donc, en France et en Allemagne, je disais qu'ils se comparaient même les résultats d'analyse. Après moi, pour la technologie, mais on avait aussi des archéologues qui sont des spécialistes de cette culture celtique, dont pour le premier projet, quelqu'un sur l'art celtique, qui était aussi membre dans le deuxième projet, et une personne qui nous rejoignait dans le deuxième projet, qui est une numismate, donc c'est une phase dans la culture celtique, surtout dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, quand on commence de travailler l'or aussi pour fabriquer des monnaies.
C'est une culture qui vous fascine ou vous intéresse plus particulièrement? Et pourquoi?
Oui, donc mon doctorat et avant d'intégrer le CNRS, j'ai eu l'occasion pendant une année d'avoir une bourse postdoctorale de la région de Bourgogne qui m'a permis de travailler sur une tombe importante en France, la tombe de la Dame de Vix dans le musée de Châtillon-sur-Seine. Et la Dame de Vix, donc une princesse celtique, qui vivait dans une période qui était en charnière du premier au deuxième âge du fer, au second âge du fer, et elle portait un torque très impressionnant. Et je l'ai étudiée donc dans le cadre de ce séjour en Bourgogne. Et cet objet m'a toujours poursuivie par mon intérêt, parce qu'il intègre des éléments orientaux, des éléments de la péninsule ibérique et des éléments celtiques de la France. Et là, déjà, un hybride de production que m'a beaucoup touchée. Et c'est à base de ça que je me suis dit, il faut que je mobilise des spécialistes pour qu'on fasse des grands projets sur la production en or de cette culture celtique. Mais comme il y en a tellement, on a commencé avec une première tranche pour le premier projet, ce qui s'appelait Westhallstatt Gold, parce que cette culture du premier âge du fer a un nom qui s'appelle Hallstatt, qui est un site en Autriche qui a donné ce nom, qui est éponyme. Et le deuxième projet portait plutôt sur le second âge du fer, avec des ors qui se différencient des premiers par un changement de style, de forme, de décor, d'expression, même le poids change de ce qu'on a utilisé. Et le second âge du fer est aussi une période quand on commence à altérer la composition de l'or qu'on trouve dans la nature, souvent dans des rivières, donc un or alluvial qui est travaillé directement. Et à ce second âge du fer, on commence à faire des alliages ou encore dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, on fait même une purification de l'or quand on a des objets qui sont presque purs en or.
Une de vos collègues, Béatrice Coué, de CNRS, avait travaillé justement sur les mines d'or du Limousin. Est-ce que les mines sont toutes répertoriées pour les temps anciens, dans leur exploitation ancienne, à travers l'Europe?
Non, certainement pas. On a trouvé et exploité des informations récemment sur des premiers travaux minières vraiment dans la roche, parce qu'il faut savoir que dans la nature, il y a deux sortes d'or exploité. Il y a l'or alluvial qui, par érosion des minéraux qui contiennent de l'or, sont transportés dans des rivières et on en trouve dans le lit des rivières, dans des sédiments qu'on va exploiter. C'est même connu pour le Rhône, pour le Rhin et d'autres fleuves en Europe. Et même Ariège, la région est nommée à cause de l'or, donc Oriège, Ariège, où on trouve encore aujourd'hui de l'or. Et après, il y a l'exploitation vraiment minière, où on va creuser dans la montagne pour exploiter de l'or. Et donc, ma collègue Béatrice Coué, elle a travaillé dans le Limousin, mais aussi dans les Ardennes, où on a des mines qui sont à ciel ouvert, et d'autres sont vraiment dans la montagne. Et pour l'âge du bronze, donc une période antérieure aux Celtes, on a trouvé en Géorgie et en Roumanie aussi des exploitations minières, mais en Europe centrale ou occidentale, cette exploitation commence au second âge du fer.
Alors vous évoquiez ce torque de la princesse de Vix. Mais vous avez aussi étudié à Toulouse, dans la région, au musée Saint-Raymond, les torques qui sont aujourd'hui exposés, ainsi que ceux de l'archéosite de Montance dans le Tarn. De quelle période datent-ils?
Donc ces torques sont très particuliers. Ils ont un décor qui est comparable au brocoli, je dirais. C'est vraiment très farfelu. Ce sont des décors floraux stylisés et ils se ressemblent beaucoup, mais chaque objet est une œuvre unique. ceux qui sont exposés dans le musée Serramont, musée des Antiques de Toulouse, proviennent de deux sites. Donc l'un, il vient de Haute-Garonne, de Fenouillet, qui était trouvé lors des travaux du canal du Midi. Et l'autre est de Lasgreis, qui est un lieu dans le Tarn. Et tous les objets sont exposés et visibles aujourd'hui au musée Serramont. Ces objets-là ont été réalisés par une technique qu'on appelle la cire perdue. Donc on fait un modèle en cire pour des tors qui sont creux sur un noyau en argile. On va couvrir de tout dans une enveloppe d'argile. On va chauffer tout pour évacuer la cire et on va remplacer cet espace qui s'est créé par l'évacuation avec de l'or liquide pour obtenir un objet. C'est un peu comme les couronnes qui sont faites aujourd'hui par le dentiste. C'est la même technique. Le torque de Montance, qui n'est pas à l'archéosite de Montance, mais qui est trouvé dans la même commune, il se trouve dans le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et l'archéosite de Montance voulait avoir une copie de ces objets. Ils m'ont demandé de le faire dans mon atelier. Mais malheureusement, le CNRS ne me paye pas pour faire des répliques. Donc, on a cherché et trouvé un orfèvre qui est aussi ciseleur, et où il est surtout ciseleur, ça veut dire qu'il travaille des tôles en relief. Et mes études ont montré que cet objet de Montance n'est pas fait comme ceux de Fenouillet ou de Lasgreis, mais il est fait par une technique de déformation plastique qu'on appelle la ciselure, où on déforme une tôle sur un support avec des poinçons et des ciselets. Et donc ce monsieur, ce meilleur artisan de France, meilleur ouvrier de France, il a fait beaucoup de recherches expérimentales et il a trouvé une solution qui est en train d'élaborer. Il va la montrer cette année.
Donc ce sont des découvertes du 19e siècle.
Exactement.
Mais ça ne vous a pas empêché de pouvoir faire des études, notamment d'observer les traces des outils où ces objets ont certainement subi à travers les décennies qui ont suivi leur découverte et jusqu'à présent plusieurs types d'interventions, des nettoyages, mais peut-être aussi des moulages.
Oui, il y avait certainement des moulages et c'est dans le laboratoire Materia Viva à Toulouse où ces objets étaient restaurés et nettoyés, mais les moulages ou d'autres traitements n'ont pas altéré les surfaces. Donc on a très bien vu les traces qui, par la topographie des surfaces, montrent exactement la technique et les outils utilisés.
Donc, si vous avez du mal aujourd'hui à trouver des meilleurs ouvriers de France qui soient capables de pouvoir effectivement reproduire ces technologies, est-ce que ça signifie qu'à l'époque, déjà, il y avait des artisans qui pouvaient être très différents, relever de spécialités aussi très différentes ou de techniques, dextérité particulière ?
Bon, ce que nous avons observé, il n'y a pas que seulement le torque de Montance qui est fait par cette technique de la ciselure. Il y en a un autre que j'ai étudié à Dublin, donc dans le musée national d'Irlande, un autre à Édimbourg dans le musée national d'Écosse, qui sont exactement faits de même manière. Et même en France, il y a un deuxième exemplaire au musée d'archéologie nationale qui lui aussi est fait par ciselure. Et le rendu esthétique est presque le même, donc de loin on croit vraiment que c'est la même chose, et c'est que avec des études que nous avons menées par la microscopie et les observations très détaillées qu'on a découvert qu'il y a deux façons de faire quelque chose qui typologiquement, stylistiquement était très près, et pour les raisons on peut que spéculer, probablement ceux qui sont faits en tôle sont des imitations de quelque chose qu'on ne savait pas faire et on a fait avec des techniques connues par d'autres ateliers. Mais finalement, c'est une question qui n'est pas encore résolue.
Alors, vous avez publié en 2021, Barbara Ambruster, un ouvrage de synthèse qui est aujourd'hui un ouvrage de référence, qui s'intitule « Les ors de l'Europe atlantique à l'âge du bronze, technologie et ateliers ». Et cet ouvrage a été publié par la maison d'édition, les éditions chauvignoises à Chauvigny, qui ont évidemment une très bonne réputation auprès des chercheurs et des spécialistes, mais peut-être que c'est une maison d'édition un peu confidentielle pour le grand public. Quel était l'intérêt pour vous d'avoir choisi cette maison d'édition ?
Donc moi, je connaissais d'autres publications de cette édition. Donc, j'ai pris contact avec Max Aubrin, qui, avec son équipe, fait un travail excellent de publications qui sont à la fois intéressants et scientifiques et aussi esthétiques et très bien édités, justement. Et le rendu de mon livre m'a beaucoup plu. Donc, c'était pas prévu pour moi d'être aussi bien reçu. Et moi, je peux que conseiller cette édition.
Oui, c'est un ouvrage qui est très abordable, fourni de tas de détails techniques, de très belles illustrations et tout à fait accessible à tout un chacun. Est-ce que cet ouvrage venait clore des recherches de votre projet binational, si je puis dire, ou bien est-ce pour vous tout autre chose ?
C'est plutôt une synthèse d'une partie de mes recherches qui porte sur l'Europe atlantique. Donc j'ai eu l'occasion d'être dans je ne sais pas combien de musées du sud du Portugal en passant par le nord de l'Espagne et Madrid, bien évidemment, après la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande, jusqu'en Scandinavie, jusqu'à Copenhague, où j'ai recueilli des informations sur l'orfèvrerie de l'âge du bronze. Et en comparant les objets dans une perspective diachronique et aussi dans une grande perspective géographique, j'ai trouvé bien sûr des similitudes et ça m'a intéressé de voir l'évolution du savoir technique des artisans de cette période et leur échange, parce qu'il y a des choses qui sont connues que très régionalement, par contre d'autres sont communs sur toute cette façade. C'est-à-dire qu'il faut que les peuples avaient des contacts maritimes ou terrestres, donc qu'il y avait des échanges, des voyageurs, et on peut bien sûr transporter des idées, on peut transporter des objets, ou on peut faire voyager des artisans.
Et des outils.
Et des outils, bien sûr.
Donc, publié quand vous êtes au CNRS, bon, on comprend bien que cet ouvrage est un ouvrage de synthèse qui, pour vous, est très important, et pour le grand public aussi, ou les chercheurs. Mais avez-vous une obligation de publication au CNRS ?
Oui, c'est même la première obligation du chercheur, c'est de faire de la recherche, bien évidemment, d'abord, et ensuite mettre à disposition les résultats de ces recherches, en groupe ou tout seul. Ensuite, on a bien sûr aussi des conférences, des colloques, des rencontres où il faut partager son savoir-faire et qui aide aussi bien sûr pour développer plus d'idées et plus de connaissances. Et moi, dans ma longue carrière, j'ai plus que 200 publications dont trois monographies à mon nom propre et après 5 monographies qu'on a fait à plusieurs ou éditées en plus. Et c'est ce qu'il faut vraiment faire au CNRS.
Merci. Je vous propose une petite pause musicale avec Jean-Michel Jarre, Oxygène, en 1976. Et j'ai choisi cet artiste parce qu'il y a aussi ici une part de recherche en plus de la composition. Il faut rappeler que Jean-Michel Jarre avait été dans le groupe de Pierre Schaeffer, qui dans les années 40 avait déjà initié ce qu'on appelait la musique concrète ou acoustique, ce qui n'est pas forcément la musique privilégiée, mais cette démarche est vraiment une démarche qui a abouti à une musique tout à fait intéressante et très connue maintenant depuis les années 70. Jean-Michel Jarre. Thank you. Barbara Ambruster, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler des ors et des techniques d'orfèvrerie ancienne. Vous qui êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez eu la chance d'étudier, je crois, les premiers ors de l'humanité qui ont été découverts à Varna. Que vous ont-ils raconté, ces objets ?
Donc, ces objets de Varna ont été trouvés dans une nécropole d'une période qu'on appelle le chalcolithique. Chalcolithique, ça vient du cuivre. Donc, c'est une période où on commence à travailler comme premier métal le cuivre. Mais on travaille encore aussi les pierres, donc le silex et d'autres. Et on a trouvé une nécropole avec les premiers ors en quantité. Ils doivent en avoir eu avant parce qu'ils sont tellement développés déjà dans leur technique, mais aussi dans leur valeur extraordinaire, symbolique, esthétique, que moi, orfèvre, j'étais complètement épatée. Je suis allée dans le cadre d'un projet allemand qui étudiait ces ors, mais aussi de différents points de vue. Et moi, j'y étais pour justement la fabrication des objets. Et ils m'ont montré que à l'inception, donc le début de la métallurgie, on savait déjà travailler un matériau qu'on ne connaissait pas auparavant, on ne travaillait pas en tout cas. Ils ont fait des merveilles avec très peu de possibilités d'outillage. Ils ont déjà dominé la cire perdue comme technique de la mise en forme d'objets très fins. Et ils ont martelé, ils ont fait toutes les techniques qu'on utilisait après, en tout cas une grande partie. Et ils ont fait une variété de parures qui étaient déposées sur les corps des défunts, positionnées, comme ça on savait ce qui ornait la tête ou d'autres parties du corps. Mais il y a aussi des sceptres, ou des outils plutôt de prestige qui sont ornés avec de l'or, et même les archers, donc de l'arc, étaient décorés avec de l'or. Donc ces objets sont particulièrement impressionnants et en grande quantité, et ils datent, et ça c'est le plus surprenant, du milieu du 5e millénaire avant Jésus-Christ, quand en France c'est encore le fin fond de l'âge de la pierre.
Alors aujourd'hui, justement, après avoir vu de très nombreuses collections, est-ce qu'il y a un thème, un objet ou une collection que vous souhaiteriez le plus étudier pour poursuivre vos recherches ?
Ah, il y en a plusieurs, mais actuellement, entre autres, je travaille sur des ors étrusques en Corse, à Aléria. On a trouvé une nécropole dans beaucoup de tombes sans... pourvu d'or, donc il y a des parures, surtout féminines. Et ces ors m'ont beaucoup impressionnée quand je les ai étudiées à Aléria. Et il y a des équivalents et même des sources plutôt de cette orfèvrerie en Italie, parce que les Étrusques, c'est un peuple de l'âge du fer qui était installé dans le nord de l'Italie, en Étrurie, jusqu'à Rome. Et ils ont produit des parures d'une finesse, d'une délicatesse extraordinaire, ornées avec des techniques de décoration qui s'appellent filigrane et la granulation. Et donc ces techniques étaient utilisées aussi par ceux qui ont fabriqué des objets qui sont enterrés en Corse, qui est aujourd'hui français et pas italien.
C'est une découverte récente, la découverte d'Aléria ?
Ce sont des découvertes des années 60, 70 et 80. Et qui seront maintenant mis en valeur à Aléria.
Il va y avoir une exposition de ces objets ?
Oui, c'est planifié pour cette année, probablement en juillet, dans le musée d'Aléria, qui a déjà une merveilleuse exposition sur la culture étrusque sur l'île de Corse. Il y aura une exposition sur la femme étrusque et ses parures, dont des parures en or, mais aussi des parures en argent, du verre. Et il y a même des pierres qui sont intégrées, par exemple, dans des parures en or.
Donc, toutes vos recherches sont quand même assez pointues. Vous ont pris un certain nombre d'années, si je puis dire, pour être menées à bien et pour vous permettre de posséder aujourd'hui une pleine maîtrise. Vous avez cependant formé des étudiants, participé à de nombreuses conférences. Est-ce que certains vous ont contacté pour poursuivre vos recherches à vos côtés et un peu plus longtemps si possible?
Oui, j'ai eu l'occasion d'enseigner, mais c'est plutôt ponctuellement, dans des universités en France, en Allemagne, en Belgique, même en Espagne et au Portugal. Je suis allée même en Amérique, donc à New York et à Philadelphie, où j'ai enseigné également, ou en Russie, à Moscou. Mais ça reste des enseignements ponctuels pour éveiller l'intérêt. Mais il faudrait installer, et je peux le recommander vraiment pour les études archéologiques, de pouvoir aussi apprendre justement l'histoire des techniques, des matériaux. Pour moi, c'est de l'or, l'argent et le bronze, mais ça peut être aussi le verre, la pierre, la céramique. Tout ce qui fait la culture matérielle que nous étudions en grande partie en archéologie, à part les questions de l'environnement, du bâti, etc. Et malheureusement, ces enseignements ne sont pas prévus ni en France ni en Allemagne sur la technologie des métaux.
Barbara Ambruster, merci de nous avoir présenté toutes vos recherches aujourd'hui. On comprend bien les enjeux et l'ampleur et on vous souhaite évidemment une bonne continuation. Donc pour tous nos auditeurs, on pourra aller consulter, observer les torques qui sont des colliers ouverts au musée Saint-Raymond de Toulouse, mais aussi au musée des Antiquités nationales et bientôt à Aléria en Corse. Merci Barbara Ambruster. Donc avant de nous quitter, moi je vais vous recommander un ouvrage dans la prolongation du thème de la recherche de notre invité d'aujourd'hui. Cet ouvrage s'intitule « Comme un vol d'étourneau ». Il a été écrit par Giorgi Parisi, prix Nobel de physique de 2021. Si je vous en donne un peu la présentation, ça reste rébarbatif. C'est donc tout un thème des travaux autour de la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planétaire, d'où l'intérêt et des questionnements autour des vols des étourneaux. Comment les étourneaux font-ils pour avoir des vols aussi déployés tout en restant l'un à proximité de l'autre. C'est un ouvrage de vulgarisation qui est en fait très bien écrit, tout à fait abordable et qui va nous ouvrir les portes évidemment sur tous ces systèmes de physique un peu hermétiques, mais qui nous présente aussi ce qu'était la recherche à une époque dans les années 40-50 où il n'y avait pas encore les ordinateurs et où tous les chercheurs rendaient leurs calculs sur des cartes perforées qu'ils transportaient sur des petits chariots dans les cours et les couloirs des universités, notamment pour Giorgi Parisi à l'université de la Sapienza à Rome. Et lorsque le chariot tombait, c'était des années de recherche qui étaient bouleversées, des calculs perdus. Bon, ce sont des anecdotes qui publient donc des présentations un peu plus arides, mais tout à fait accessibles de ce prix Nobel de la physique. Je voulais donc remercier aujourd'hui, bien sûr, Léo à la technique et Maëva, stagiaire de l'Institut de journalisme de Toulouse, de leur présence et de leur collaboration. Et je vous invite à retrouver toutes les émissions en podcast sur le site www.espritoccitanie.fr. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission Histoire, Histoire, présentée par votre serviteur, Monique Drieux.